des masterclass du biocontrôle, un podcast proposé par Syngenta. Comment intégrer les solutions de biocontrôle dans votre programme de protection?
Maintenant, on va entrer, si j'ose dire, dans le vif du sujet, en tout cas avec la vision du terrain, avec les trois questions. Comment intégrer dans la chaîne de protection les biocontrôles? Quels bénéfices, bien sûr, notamment pour la certification et puis, de manière générale, pour l'agroécologie? On va le faire avec le viticulteur Samuel Mas, avec le conseiller viticole indépendant Lilian Bachellery, avec Denis Lapalu du centre de vinification de Georges Dubœuf et puis avec Gilles Robert de Syngenta. Mais d'abord, on va commencer autour de cette première question. Comment intégrer les biocontrôles dans votre stratégie de protection de votre vigne? On va commencer par une vidéo. Vincent d'Espagne, viticulteur dans le Bordelais. Vous allez entendre son témoignage. Noblesse oblige, parole à un viticulteur. Et là, on va dans le Bordelais, dans l'entre-deux-mers. Reportage.
Donc, Vincent d'Espagne, je suis co-gérant des vignobles Bernard d'Espagne, société qu'on gère avec ma sœur Sophie. Donc, depuis 2 ou 3 ans, nous avons intégré une démarche d'utilisation de produits de biocontrôle sur un îlot de 5 hectares dans un objectif de diminution de notre impact phytosanitaire sur l'environnement. Les biocontrôles, donc, on a utilisé plusieurs types de biocontrôles. Nous avons utilisé du PhytoSave de Syngenta en anti-mildiou en début et fin de saison. Nous avons utilisé du soufre pour la partie anti-oïdium. Et cette année, pour la première fois, nous avons utilisé du Tahydro en association après un traitement au Geox tôt dans la saison sur les antibotrytis, car nous avons sur le vignoble 2 cépages très sensibles aux botrytis qui sont la muscadelle et le sauvignon. Donc, les objectifs d'utilisation de ces produits de biocontrôle étaient donc d'améliorer notre IFT. Sur 2019, nous avons eu un IFT de 7,68 IFT global, donc 4,9 d'IFT en biocontrôle. Et sur 2020, on va atteindre un IFT de 7 en produits de biocontrôle. L'autre objectif était le 0 CMR, donc voilà, plus aucun CMR utilisé sur ces parcelles. Et en plus, le dernier objectif était de chercher le 0 résidu dans les vins. En conclusion, malgré 2 années difficiles, 2019 et 2020, avec une forte pression de maladies, nous avons observé de très bons résultats de l'utilisation des biocontrôles. Et nous avons répondu à plusieurs objectifs, donc la stimulation de l'autodéfense de la plante, la protection de nos riverains et des applicateurs des produits phyto, la protection des points d'eau, et surtout l'objectif économique, donc arriver à avoir une récolte saine, à maturité, et un coût raisonnable pour l'entreprise dans un objectif de protection de la sécurité économique de l'entreprise. L'autre observation est que l'utilisation des produits de biocontrôle demande néanmoins un gros suivi au niveau du vignoble afin de pouvoir voir l'évolution des maladies.
Voilà, gros suivi du vignoble, mais satisfaction, vous l'entendez, de Vincent d'Espagne, de ce viticulteur dans l'entre-deux-mers. On va voir donc comment opérationnellement intégrer les biocontrôles dans la chaîne de programme de protection de vos vignes. Alors, je me tourne vers Gilles Robert et Denis Lapalu et Lilian Bachellery. Gilles Robert, je voudrais que vous nous parliez de la démarche qui est la vôtre, Syngenta, mais aussi avec le conseiller viticole et puis le producteur. Comment vous construisez le programme à trois et le binôme que vous faites avec l'expert Syngenta? Gilles Robert, expliquez-nous de quoi il retourne.
Mais bonjour à tous. En effet, dès 2018, nous avons opté pour une démarche grande parcelle producteur. Le but était de valider ces programmes en direct avec le producteur, avec son matériel, avec ses cépages, avec sa façon de travailler, avec sa climatologie. Tout ça en accord avec le conseiller local, volontaire, que je remercie. Je remercie en même temps les producteurs qui ont participé. Il y a 16 producteurs qui ont participé cette année en 2020. Et franchement, c'est très enrichissant.
Il y avait des mini-parcelles au départ, et puis ensuite, vous êtes passé à des plus grandes parcelles avec les producteurs, et c'est ce que vous nous expliquez.
C'est ça, les grandes parcelles, elles étaient en surface entre 2 hectares et 10 hectares.
Voilà. Dans quel endroit étiez-vous?
En fait, Ces parcelles, il y a eu 3 parcelles dans le Cognac, 12 parcelles en Gironde avec des parcelles en agriculture biologique et une parcelle dans le Gers. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que chacun avait son rôle. Le technicien suivait le programme, le producteur assurait les traitements et Syngenta a assuré également les notations maladies, le coût du programme, le calcul des IFT, voire quelques analyses de résidus selon la demande. Ouais. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que 2018 et 2020, ce sont 2 grandes années test pour nous, pour ces programmes, car c'était des années à forte pression mildiou. Et ce que je retiens quand même, c'est que 95% des parcelles ont assuré le rendement objectif de l'appellation, hein, qui se situe entre 45 et 120 hectares selon les vignobles. Les IFT conventionnels ont baissé de 20...
Oui, ce que disait Vincent d'Espagne tout à l'heure.
Voilà, c'est quand même intéressant. Et le coût d'utilisation de ces biocontrôles, puisqu'il faut en parler, tourne autour de 120 euros de l'hectare.
Oui.
Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que mes collègues ont pratiqué cette même démarche dans d'autres vignobles, et les résultats sont très encourageants.
Oui, alors, vous avez bien insisté sur ce binôme, Syngenta et puis conseiller, qui vient monter un trio, en quelque sorte, à 3 pour monter le programme. Ça, c'est essentiel. Je voudrais te donner la parole à Lilian Bachellerie sur ce point. Comment ça s'est construit? Alors, justement, vous qui êtes conseiller viticole, ce binôme d'abord, avant d'aller voir les producteurs, avec Syngenta.
Bonjour. Alors, en fait, c'est vraiment une réflexion à 3. Vincent d'Espagne, avec qui on a travaillé avec Gilles, connaît son exploitation, il apporte ses contraintes, Gilles apporte son expertise sur les biocontrôles et nous a aidé à construire un programme dans lequel on a aussi cherché à atteindre du zéro Covid dans le vin final. Et après, moi, je suis là pour assurer la globalité de la réflexion sur la globalité des cibles sur les maladies. Il ne faut pas oublier une maladie en ayant juste cultivé le biocontrôle sur une maladie.
Je me tourne vers Samuel Mas, viticulteur. Alors vous êtes en bio, là on était en conventionnel, mais Samuel Mas, une réaction du viticulteur, du producteur sur l'approche de la construction de ce programme à 3.
Oui, mais complètement. Moi je pense que là, dans tous les cas, il n'y a que le vigneron qui a l'historique de la parcelle. Donc dans ce cas-là, c'est bien une combinaison qui va se faire à 3 pour vraiment derrière arriver à une vraie efficacité du programme. Et j'ai bien vu que Vincent d'Espagne avait 70 hectares. J'imagine bien que derrière, il doit falloir avoir une gestion très importante de son plan d'action, en tout cas au niveau des traitements. Donc c'est vrai que ça peut se construire qu'à 3, en tout cas dans l'approche d'un bilan de campagne et d'une approche aussi des traitements.
Merci Samuel. Je me tourne là maintenant vers le maître de chais, alors le patron du centre de vinification des vins Georges Dubœuf, Denis Lapalu. Vous aussi, vous y êtes mis au biocontrôle avec la partie de vos propres vignes, parce que vous avez vos vignes et puis les viticulteurs qui vous apportent leurs raisins, leurs vins. Alors, comment est-ce que vous y êtes mis, vous aussi? Expliquez-nous, racontez-nous votre démarche.
Alors c'est ça, oui, bonjour. Nous on a présenté, en fait c'est la société Syngenta qui nous a présenté au cours d'une réunion technique les biocontrôles. Donc ça nous intéressait finalement à double titre, puisqu'on avait on a des vignes en nom propre qui sont en conversion biologique, et on pouvait utiliser ces biocontrôles, et puis comme vous l'avez dit, on est en partenariat avec des viticulteurs sur 200 hectares de vignes qui ont des plans de traitement en conventionnel et qui peuvent intégrer aussi les biocontrôles.
Oui. Et comment ça s'est passé la discussion avec eux? Vous m'avez dit qu'il y a à peu près 70 viticulteurs.
Oui, c'est ça. Donc en fait, on fait des réunions techniques annuel avec Syngenta. Ces biocontrôles ont été présentés au cours de ces réunions techniques. Leur intérêt, bien sûr, était assez évident par rapport à notre vignoble en termes environnemental. Aussi, en réduisant les doses de certains produits de traitement et faire diminuer les IFT.
Oui.
Puisque là, on en parlera tout à l'heure, on a aussi un cahier des charges assez spécifique par rapport à ça. Et il y a aussi la notion de HVE qui va venir rentrer dans ce cahier des charges.
On va revenir justement sur cette question de la certification, mais sur les IFT, pouvez-nous donner une idée, vous aussi, dans votre activité, dans vos domaines, de la baisse des IFT? Denis, il n'a pas lu. Allez-y, on vous entend. On vous entend, Denis. Non. On va vous retrouver. Ça, c'est les joies du direct, en particulier avec le chat Zoom. C'est la vie du protocole sanitaire et Covid. Je voudrais qu'on en vienne à un autre témoignage de viticulteurs avec, on l'a vu, des solutions qui sont utilisables aussi en bio. Ça a été cité à l'instant par Denis Lapalu. Vous allez voir comment, en Bourgogne, on va aller dans de nombreux vignobles français aujourd'hui. Comment en Bourgogne, avec Bio-Bourgogne, Agnès Boission, qui est conseillère en agriculture biologique chez Bio-Bourgogne, interrogée par Pascal Grobon de Syngenta, témoigne de la capacité des biocontrôles, évidemment, à intervenir sur ces cultures. Regardez, image.
Bonjour Agnès, merci d'être avec nous pour cet échange sur les biocontrôles et l'agriculture biologique. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter.
Bonjour, Agnès Boission, je suis conseillère en viticulture biologique à Bio-Bourgogne. Je suis chargée notamment de l'accompagnement des conversions bio en Bourgogne.
Vous pouvez nous présenter votre structure ?
Alors, Bio-Bourgogne, c'est une association loi 1901 qui est chargée de l'accompagnement des conversions des producteurs en Bourgogne.
Et ça représente aujourd'hui, au niveau des viticulteurs et des hectares ?
Au niveau des viticulteurs, ça correspond à peu près à 3500 hectares en viticulture biologique pour à peu près un peu plus de 350 producteurs.
Et donc votre rôle, il y a du conseil, de l'expérimentation ?
Alors oui, tout à fait, ça passe avant tout par du conseil technique et puis de l'expérimentation, notamment de produits de biocontrôle.
D'accord. Et donc, au niveau des bio aujourd'hui sur votre secteur, c'est quelque chose qui progresse ?
Alors oui, on est en constante augmentation au niveau des chiffres de la viticulture biologique, notamment depuis les années 2010 où on a une très forte progression.
Et comment voyez-vous l'évolution de l'agriculture biologique dans les années qui viennent ?
Alors, la viticulture biologique va continuer d'augmenter. Il y a une pression sociétale qui est assez importante, une demande de la part du consommateur pour travailler autrement. Il va y avoir encore une très grosse évolution.
Alors, justement, dans cette évolution, on voit beaucoup des diminutions de cuivre et de soufre et donc l'arrivée de biocontrôle. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces changements qui arrivent ?
Alors, oui, effectivement... Par rapport à l'utilisation du cuivre et du soufre, depuis plus de 10 ans maintenant, on réfléchit à trouver des méthodes alternatives. Le cuivre, on sait que c'est un réel problème. Le soufre, c'est un problème, mais qui est quand même différent de celui du cuivre. Malgré tout, on recherche des solutions qui peuvent nous permettre de réduire considérablement les doses de cuivre et de soufre, tout en sécurisant les itinéraires techniques.
Vous nous avez parlé donc de la réduction de cuivre et de soufre et de l'introduction des biocontrôles. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des programmes qui peuvent être mis en place ?
Alors, on a deux problématiques. Hein. La première problématique, c'est notamment l'utilisation du cuivre. En viticulture biologique, et pas que en viticulture biologique, mais aussi en conventionnel, on est aujourd'hui limité à 4 kg par hectare et par an lissé sur 7 ans. Donc, on est dans l'obligation d'optimiser nos doses de cuivre pour être en dessous des 4 kg par an. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième, elle est notamment liée à l'utilisation du soufre. Le soufre est problématique pour plusieurs raisons. La première, liée à l'aspect irritant par rapport à l'utilisateur. Ça, c'est assez problématique. Cette odeur, cette très forte odeur aussi, peut être parfois très désagréable. Il y a des problèmes aussi liés après à la vinification et notamment par rapport à des goûts de réduits. Mais aussi, on s'est rendu compte que dans les années qui peuvent être catégorisées comme plutôt solaires, on a des problématiques de phytotoxicité, de brûlure liées à l'utilisation de soufre et parfois avec l'utilisation de doses un petit peu élevées. Et il nous faut absolument trouver des solutions qui peuvent nous permettre soit diminuer ces doses de soufre, soit de les réduire considérablement. Voilà. Donc concrètement, dans un programme de traitement, on a validé un certain nombre de choses. Donc on sait aujourd'hui en Bourgogne qu'on peut commencer les traitements à partir du stade 7-8 feuilles étalées et les terminer à partir du stade début véraison. On sait aussi que la protection pendant la fleur, c'est le moment le plus sensible de la vigne aux différentes maladies. Donc on peut tout à fait intégrer des produits de biocontrôle en début de campagne et en fin de campagne et raisonner par rapport à la pression phytosanitaire de l'année, soit d'intervenir seul avec des produits de biocontrôle, soit les associer avec du soufre ou avec du cuivre.
Donc vous venez de nous expliquer qu'il y a une possibilité d'introduire donc des produits de biocontrôle au début et à la fin d'un programme. Votre expérience vous a amené à utiliser quel genre de produits, surtout dans vos essais ?
Alors, au niveau de Bleu Bourgogne, on a testé le PhytoSave sur un essai Mildew et sur un essai Medium. Donc voilà, en début de campagne et en fin de campagne. Et puis on a utilisé aussi, notamment en 2019, donc sur un millésime avec une très forte pression Medium, sur un cépage qui est très sensible au chardonnay, on a utilisé dans un programme le Taïgro, que l'on a intégré avec des doses réduites de soufre, et voire même seul, et on a eu des résultats très intéressants.
Alors on a parlé de l'intérêt pour l'agriculture biologique, et effectivement de tout ce que ça a pu apporter jusqu'à aujourd'hui et son utilisation. Et qu'est-ce que vous en pensez pour les conventionnels ? Est-ce qu'on peut penser que ça peut prendre une place aussi chez eux ?
Alors oui, tout à fait, il y a un intérêt pour les bio, mais je pense plus globalement, ça peut être une réponse pour la viticulture conventionnelle, pour réduire l'utilisation des intrants. Et puis, à mon sens, il y a beaucoup de parcelles qui sont, où il y a des cépages qui sont peu sensibles ou beaucoup moins sensibles à l'oïdium. On a aussi des années avec des fortes pressions, mais aussi des années avec des pressions faibles à moyenne. Et on peut tout à fait envisager d'intégrer des produits de biocontrôle, que ce soit dans des programmes conventionnels, que ce soit dans des programmes bio.
Voilà pour ce témoignage d'Agnès Boisson, Bio Bourgogne, très intéressant. On voulait vous donner cette expertise, évidemment. Je voudrais vous remercier, en tout cas accueillir tous ceux qui nous rejoignent. Vous étiez plus de 400 inscrits et vous êtes déjà plus de 300 participants et vous êtes toutes les minutes un petit peu plus nombreux à nous rejoindre. Nous sommes donc dans les masterclass du biocontrôle en direct, dans cet événement en effet. Et puis, nous sommes là dans la problématique de l'intégration des biocontrôles dans votre chaîne de production, de protection de la vigne. Il y a déjà plusieurs questions qui sont arrivées par le chat de Zoom auquel vous êtes connecté. N'hésitez pas à nous renvoyer des questions, on y répondra et j'y viens dans quelques instants. Mais d'abord, noblesse oblige, je voudrais passer la parole à Samuel Mas, donc je le rappelle, à Haussé-Languedoc, viticulteur indépendant, coopérateur en partie et producteur de son propre vin. Samuel, alors vous êtes en bio. Comment vous avez intégré les biocontrôles? De quelle manière? Quelle était votre démarche et qu'est-ce que ça donne en quelque sorte, Samuel Mas?
Donc du coup, moi j'ai repris l'exploitation derrière ma grand-mère en 2012 et en fait depuis le départ, je me suis attelé à vraiment me concentrer sur mon sol. Ça a vraiment été ma stratégie de départ de dire on va supprimer les herbicides petit à petit. Mais après, comment on fait en sorte que notre vigne soit la plus résistante naturellement possible? Et donc c'est tout logiquement et assez facilement qu'on est venu s'intégrer sur les biocontrôles.
Oui, oui.
Donc sachant que c'est les biocontrôles, comme ça a été expliqué au sens large, pas forcément que des produits. Donc par exemple, nous avons réimplanté des, mis en place des arbres, nous refaisons les murs en pierre sèche, nous avons mis des mares. En fait, nous nous concentrons sur la parcelle en elle-même, mais aussi sur ce qui l'entoure. Et ainsi, je peux donner un tout petit exemple qui sera parlant pour tout le monde. On fait zéro insecticide sur l'exploitation, à part ceux obligatoires pour la pavescence dorée, puisque nous sommes en zone obligatoire dans l'Hérault, avec trois traitements obligatoires. On a zéro ver de grappe, par exemple. Donc on fait zéro traitement pour le ver de grappe. Et ça, c'est induit par une forte présence de chauves-souris ou autres insectes, autres prédateurs nocturnes qui permettent de réduire ça. Après, petit à petit, donc en fait, en 2017, juste avant l'arrivée de mon frère qui est arrivé en 2018, je suis rentré dans le réseau des filles, des fermes des filles de la Chambre d'agriculture. Et de là, donc qui est un bassin versant d'un affluent de c'est pas d'un étang, oui, qui avait pour vocation de réduire les herbicides sur ce secteur-là,
oui.
Et aussi les autres intrants, qui rentrent à la démarche d'approche des copiteaux. Et en fait, dans l'intégration de ce programme-là, moi, je me suis attelé à aller sur des produits de biocontrôle. Et donc, c'est en 2018 et 2019 et aussi 2020 où on a petit à petit amené des produits de biocontrôle, notamment le PhytoSafe. Et en fait, on utilisait du soufre, Mais on s'est rendu compte, par exemple, et ça a été cité tout à l'heure par Agnès
Boisson,
le problème du soufre aujourd'hui. On a eu des très fortes brûlures il y a 2 ans de ça, avec un épisode de chaud à 46 degrés qui avait brûlé beaucoup de vignes, je pense que vous avez entendu parler. Et donc, il nous fallait trouver des solutions. On a aussi une grosse problématique, et qu'on n'a pas parlé pour l'instant, mais qui est la problématique voisin. En fait, aujourd'hui, quand on veut faire un poudrage et l'utilisation de soufre poudre, on se rend compte que c'est très compliqué à proximité d'habitation. Et donc, l'utilisation de certains produits qui permettraient de limiter ça, pourrait nous permettre, nous, en tout cas, de correspondre à l'approche qu'on peut avoir.
Alors, vous nous avez raconté tout ce processus, reprise de votre terre 2012, mais les années d'introduction du biocontrôle, c'est récent, 2017, 2018, 2019. Déjà, vous mesurez des résultats, qu'est-ce qu'il en est ?
Oui, alors en fait, comme on a aussi fait la conversion à l'agriculture biologique à ce moment-là, il y a eu des effets négatifs dans le sens où on s'est mis à travailler le sol, donc on a eu des pertes de récoltes assez importantes, parce qu'on a enlevé les racines de surface. Mais de notre côté, ces produits sont des biostimulants aussi, on a parlé un petit peu avant pour certains, et qui ont permis de donner beaucoup de vigueur à la vigne. Donc j'avais dit aussi en amont qu'on s'était installé en amenant de la matière organique et tout ça, qui d'ailleurs nous donne une bonne résilience face aux sécheresses aujourd'hui. Mais voilà, donc du coup, l'intégration de ces produits s'est faite naturellement, totalement. Et en fait, aujourd'hui, on voit les effets bénéfiques. Par exemple, cette année, et ça a été dit précédemment, on voit très bien la problématique cuivre. On a eu un printemps très difficile en 2020. Et donc, on aura utilisé du PhytoSave et ça nous a permis, en complément et en réduction de cuivre, de passer une année assez correcte. Pas dire sereine, ça a été très compliqué, on a rentré deux fois par semaine, mais on a permis de passer l'année.
Alors, je vous redonnerai la parole dans quelques instants. Samuel, merci pour ce témoignage. Bien entendu, je vais en venir aux questions, mais d'abord, je voudrais qu'on écoute un dernier témoignage d'une exploitation viticole bio qui utilise ces solutions. Je vous disais, on change de domaine et de région, et là, on va dans le sud-est de la France, chez M. Campoy.
Donc voilà, je suis Pierre Campoy, je suis viticulteur sur une dizaine d'hectares sur la commune d'Ouveillan, dans l'Aude. Et j'exploite en bio depuis 3 ans maintenant. Les biocontrôles, je n'avais pas d'avis particulier jusqu'à présent. Et donc mon fournisseur m'a proposé de faire un essai, chose que j'ai acceptée pour pouvoir faire un comparatif. Donc sur cette parcelle, nous l'avons coupée en deux. Sur une partie, on a mis cuivre et soufre seul, traitement qu'on pratique en agriculture biologique depuis toujours. Seulement, ce sont des produits de contact. Et vu la pression maladie qu'il y avait cette année, j'ai fait l'essai de PhytoSave sur l'autre partie. Et comme PhytoSave, c'est un pénétrant, il y a eu un très très bon résultat. Avec 2 années de recul d'essai de PhytoSave, l'année 2019, petite pression maladie, le résultat était que j'ai eu une augmentation de rendement sur la partie traitée PhytoSave. 2020, très forte pression mildiou, début campagne, qui a été maîtrisée aussi bien côté PhytoSave que le non traité en fait. Par contre, fin de campagne, grosse pression odium sur grappe. Et là, côté PhytoSave, il n'y a pas photo. C'est nickel. Donc, pour moi, c'est un très très bon produit. Et je pense, dans les années qui suivent, enfin, à partir de 2021, quoi, l'intérêt sur la totalité de mon exploitation.
Alors, il n'y a pas photo. En tout cas, nous avons beaucoup de questions qui viennent de votre part. Et merci de votre participation. On va en prendre 3 déjà questions. Je vais demander à nos experts de terrain de nous aider à répondre à ces questions. Avant qu'on vienne au deuxième thème, les certifications, comment les biocontrôles peuvent nous aider. Mais d'abord, les questions. La première, donc une remarque a été faite sur le fait de ne pas citer les substances de base telles que le purin d'ortie, elle présente un intérêt en complément. Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que j'ai été clair dans la question?
Oui, Thierry, vous avez déjà trouvé que la réglementation était compliquée en France. On va en rajouter un petit peu.
Allez-y.
Donc, en fait, les substances de base, ce sont des substances qui sont définies au niveau européen. Donc, on y retrouve effectivement l'ortie que vous avez citée, mais on retrouve du talc, de l'huile de tournesol, du saccharose, différentes substances vraiment simples et qui sont listées au niveau européen. Et elles peuvent rentrer dans ce qu'on appelle en France les préparations naturelles peu préoccupantes, PNPP, qui sont donc régulées en France et qui répondent à une définition très claire, c'est que ce sont des préparations qui sont obtenues par un procédé très simple à partir de ces substances et qui est accessible à l'utilisateur final. Donc il y a un peu de dérive dans l'utilisation de ce terme, mais il faut bien savoir qu'il y a un PNPP, n'importe quel viticulteur peut le produire à partir de ces substances de base. Et c'est effectivement complémentaire à ce dont nous avons parlé précédemment.
Merci Jean-Baptiste. Alors, autre question qui va vous être posée. Samuel Mas nous disait il y a quelques instants que toute sa stratégie, c'était de renforcer, de travailler sur sa terre, mais de renforcer l'immunité naturelle intrinsèque de sa vigne. Question là, en utilisant les biocontrôles sur du long terme, pensez-vous, nous demande un de nos téléspectateurs, qu'il soit possible que la vigne s'immunise vis-à-vis des maladies. Jean-Baptiste, sur le terme.
Alors, on ne peut pas employer le terme d'immunité qui rappelle plus ce qui se passe chez des organismes comme nous, comme des mammifères. Il n'y a pas d'anticorps chez les plantes. Les stimulateurs de défense dont nous avons parlé précédemment stimulent des défenses qui existent naturellement chez les plantes, mais ce n'est pas exactement une immunité. Par contre, et là Samuel Mas l'a bien dit à l'instant, il y a un certain nombre de produits qui sont à la fois biocontrôle et biostimulants qui peuvent avoir une action stimulante sur la physiologie de la plante. Et donc, la limite entre biocontrôle et biostimulants n'est pas toujours parfaitement claire. C'est un choix de la firme de l'homologuer en tant que biocontrôle avec donc l'utilisation contre les maladies ou uniquement comme biostimulant avec l'action physiologique.
Alors, dernière question, Jean-Baptiste, là, à ce stade, hein, et puis n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions, notamment sur les thèmes qui viennent. Elle revient assez souvent, cette question. Quelle est la proportion, au fond, dans la stratégie de protection des vignes, notamment, évidemment, conventionnelle, la proportion des biocontrôles utilisés dans les programmes, Jean-Baptiste ?
Alors, c'est quelque chose d'évolutif. Il n'y a pas de proportion applicable à tout le monde. Et c'est l'intérêt de ces parcelles que Gilles Robert nous a décrit tout à l'heure, que nous avons mis en place. C'est de partir de programmes habituels de vignerons et d'intégrer une proportion qui est croissante de biocontrôle. Donc, en général, on démarre avec 2-3 applications, soit en début de saison, soit en fin de saison. Et au fur et à mesure que les produits sont assimilés, sont intégrés, on peut progressivement augmenter. Voilà. Donc c'est plus, en général, en termes de parcelles, on commence sur une parcelle ou deux de l'exploitation et ensuite on étend, on commence sur quelques applications et ensuite on augmente le nombre d'applications progressivement. Il faut faire ça tranquillement, progressivement, et les intégrer dans sa démarche.
Syngenta France SAS, numéro d'agrément MP02-249, distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. PhytoSave, non classé, EUH-401. Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. GOX-WG, attention, H317, peut provoquer une allergie cutanée. H410, très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH-401. Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Taegro, non classé, EUH-401. Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. PhytoSave, AMM numéro 219-0730. Composition 12,5 g par litre COS OGA. P102, tenir hors de portée des enfants. P280, porter des gants de protection, des vêtements de protection, se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases. P501, éliminer le contenu récipient dans une installation d'élimination des déchets agréés. SP1, ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPE2, pour protéger les organismes aquatiques, ne pas rejeter les eaux usées des cultures hors sol sous abri directement dans les eaux de surface. SPE3, pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport au point d'eau pour les usages sur vigne et pour les usages sous abri ouverts au moment du traitement. PhytoSave est une marque enregistrée par PhytoFend SA et COS OGA, une substance active brevetée par PhytoFend. GOX-WG. AMM numéro 211-0147. Composition 50% fluoxonil. P102, tenir hors de portée des enfants. P270, ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273, éviter le rejet dans l'environnement. P280, porter des gants de protection, des vêtements de protection. Se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases. P302 plus P352. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau. P501, éliminer le contenu récipient dans une installation d'élimination des déchets agréés. SP1, ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPE3, pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres pour les usages en verger et de 5 mètres pour les autres usages par rapport au point d'eau. GOX-WG est une marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta et fluoxonil est une substance active d'une société du groupe Syngenta. Taegro, AMM numéro 218-06-51. Composition, 10 puissance 13 UFC par kilogramme, Bacillus amylolique faciens, souche FZB 824. P102, tenir hors de portée des enfants. P261, éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillard, vapeur, aérosol. P281, porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. Se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases. P284, porter un équipement de protection respiratoire. Se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases. P391, recueillir le produit répandu. P501, éliminer le contenu récipient dans une installation d'élimination des déchets agréés. Pour les applications sous-abri, éviter le rejet direct des effluents dans l'environnement. SP1, ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPE3, pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport au point d'eau. Taegro est une marque déposée de Novozym AS. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément au principe de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées, se référer à l'étiquette du produit ou sur le site www.syngenta.fr. Produits pour les professionnels. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.